Vous êtes sur RTL.
Le journal inattendu d'Annie Dupéret
avec Nathalie Renoux sur RTL.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal inattendu. C'est une grande dame du théâtre et du cinéma français que nous accueillons aujourd'hui. Actrice, mais aussi écrivaine et photographe, bref, une artiste. Bonjour Annie Dupéret.
Bonjour. Bonjour.
Merci de passer cette heure en direct en notre compagnie, en compagnie des auditeurs d'RTL.
Je suis très contente d'être là, voilà.
Dans quelques jours, vous serez sur la scène du Théâtre de Paris, dans la pièce Le Duplex, du 22 février au 31 mars. À l'approche de monter sur scène, vous êtes comment? Impatiente ou stressée?
Oh non, non, plutôt impatiente de retrouver mes partenaires. Voilà, bon, les circonstances n'intéressent pas les gens, mais c'est un peu bizarre, je remplace quelqu'un qui n'a plus voulu faire la pièce. Donc, pour le moment, je fais cette expérience absolument étrange de répéter toute seule avec un répétiteur.
Oui, parce que les trois autres, c'est-à-dire Pascal Légitimus,
ils savent tout déjà.
Et Corinne Touzé, ça fait déjà.
Alors, c'est très amusant, c'est une expérience, mais je vais quand même les retrouver, vous inquiétez pas, pour quelques répétitions avant la première quand même.
On l'espère pour vous. Bon, cette pièce, évidemment, on va en parler, mais d'abord, c'est l'heure des informations. Je vous invite d'ailleurs à les commenter avec moi tout de suite, le journal. Et à la une de l'actualité aujourd'hui, la venue de Greta Thunberg dans le Tarn à Saïs. La militante écologiste de renommée internationale vient soutenir les opposants à la construction de l'A69 qui se réunit ce week-end malgré l'interdiction de la préfecture. La contamination de deux enfants à la bactérie E. coli à Lyon, un bébé de 18 mois et une fillette de 7 ans qui risque de perdre ses reins après avoir mangé un fromage au lait cru. Le sport, la suite de la 21e journée de Ligue 1 et bien sûr Écosse-France dans le tournoi des Six Nations. Il s'agit de rugby. Et puis les départs en vacances, ça se bouscule sur les routes et dans les gares, direction les sommets. Et ça tombe bien côté météo. Claire Delorme, bonjour.
Bonjour Nathalie.
De la neige fraîche tombe dans les Alpes du Sud.
Exactement, actuellement 10 cm à Auron ou encore 20 cm à Saint-Léger-les-Mélèzes. Donc de la neige encore attendue cet après-midi, jusqu'à 50 cm à 2000 mètres d'altitude. Pour les Alpes du Sud, toujours des pluies soutenues avec cet épisode méditerranéen vers le Var et les Alpes-Maritimes. Partout ailleurs, on aura aussi de la pluie sur une large façade est, également dans le sud-ouest. Ça sera beaucoup plus calme sur le quart nord-ouest, avec en revanche un renforcement dans l'intérieur des terres jusqu'à 50-60 km/h, 90 km/h vers le golfe du Lion. Donc, ce qui fait que ça sera couvert, pas d'humidité et toujours une grande douceur pour la saison, jusqu'à 13 degrés.
Merci beaucoup, Claire.
Le journal inattendu sur RTL.
Deux enfants ont bien failli mourir après avoir mangé du fromage, en l'occurrence un morbier au lait cru contaminé à la bactérie E. coli. Un bébé de 18 mois placé sous dialyse pendant 3 semaines, puis en coma artificiel pendant 25 jours. Elle est aujourd'hui dans un centre de rééducation. Et une fillette de 7 ans, toujours hospitalisée dans un état grave à Lyon. Elle risque de perdre ses reins. Son père témoigne de son inquiétude sur RTL.
Les services de l'hygiène nous ont recontactés pour venir du coup faire des prélèvements sur le morceau de morbier en question. Et c'est là qu'ils ont effectivement trouvé les traces de E. coli. Bon, évidemment, le choc quand on nous annonce ça. Comment en 2024 c'est possible qu'un fromage contaminé puisse encore être mis en circulation? Pourquoi il n'y a pas de test avant qu'il y ait des cas? Enfin, on ne va pas laisser la place au hasard dans des produits de santé importants comme ça pour notamment nos enfants, quoi. On commence à être dans un cas qui va aboutir à une greffe. Mais pour l'instant, on n'en est pas certain et on n'espère pas, même si l'espoir est de plus en plus mince.
Des propos recueillis par Bertrand Frachon à Lyon. Quelles sont les priorités du gouvernement pour les prochains mois? Le Premier ministre Gabriel Attal a réuni son équipe au grand complet ce matin. Les 34 ministres, ministres délégués et secrétaires d'État pour un séminaire à Matignon de 2 heures afin de fixer les priorités et les grands axes pour les mois à venir. Les ministres, comme les politiques de tous bords, ont salué hier la mémoire de Robert Badinter, le père de l'abolition de la peine de mort en 1980. Elle s'est éteinte à l'âge de 95 ans. Les Français aussi rendent hommage à ce grand homme, cet humaniste, à en croire les mots laissés dans les livres de condoléances ouverts tout ce week-end au ministère de la Justice. Bonjour Arthur Pereira.
Bonjour.
Alors vous êtes sur place Vendôme à Paris et c'est un défilé ininterrompu de Français qui viennent témoigner de leur émotion.
Absolument, avant d'accéder au livre d'or, il faut patienter sous la pluie. Alors certains gribouillent quelques notes, peaufinent leur discours. Silencieuse, Magali, elle fixe le portrait accroché devant le palais de justice. L'enseignante connaissait personnellement l'ancien garde des Sceaux.
Il se trouve aussi que j'ai eu un de ses fils comme élève et sa petite-fille comme élève.
Donc vous avez déjà rencontré Robert Badinter.
J'ai rencontré plusieurs fois Robert Badinter, tout à fait.
Qu'est-ce que dégageait finalement cet homme ?
Beaucoup de séduction, beaucoup de bienveillance. Quand il vous regardait, c'est comme si vous étiez la seule personne qui existait au monde.
Sandrine, elle est accompagnée de sa fille et de son mari. Badinter, c'est son tout premier souvenir politique.
Pour moi, cet homme, c'est un modèle. Ça fait partie des phares de la République qui s'éteignent peu à peu.
Des hommes politiques, des femmes politiques comme Robert Badinter en 2024.
Voilà où vous voulez venir. Non, on en manque cruellement. Quand on est du courant de la gauche humaniste, on se sent un petit peu orphelin avec ce décès.
Et certains sèchent même leurs larmes après avoir écrit quelques mots et après avoir regardé une dernière fois les yeux de Robert Badinter.
Merci beaucoup Arthur Pereira en direct du ministère de la Justice. J'ajoute que l'hommage à Robert Badinter, hommage national, sera rendu mercredi à midi, place Vendôme, devant ce ministère. Une info du service politique d'RTL. Annie Dupéré, la mort d'un humaniste, du père de l'abolition de la peine de mort, ça vous
touche ? C'est un grand symbole d'un politique qui était un grand homme, quoi. Un grand homme, une grande personnalité, avec une humanité extrêmement présente dans son action. C'est ça, voilà. Et je pense qu'on manque de personnalités d'envergure comme ça, qui ont une vision humaniste très large. Je pense à Elisabeth Badinter, son épouse, qui était aussi une femme d'une intelligence comme ça, des intelligences. Et les intelligences, comme quoi l'intelligence va de pair souvent avec une grande humanité.
Merci pour cette réaction, Annie Dupéré. Elle est de tous les combats écologistes. Greta Thunberg, l'égérie mondiale de la lutte contre le réchauffement climatique, est aux côtés des opposants à l'autoroute A69 aujourd'hui. Elle est arrivée en fin de matinée sur la ZAD de la Crémarbre, sur la commune de Saïs dans le Tarn. C'est là que vous vous trouvez, Valentin Larquier. Bonjour.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Alors Greta Thunberg, c'est un renfort de poids pour les opposants, alors même que le préfet a interdit manifestations et rassemblements.
Oui, totalement. Elle est arrivée sous la pluie, capuche sur la tête. Et pour vous dire à quel point son arrivée était attendue, une nuée de journalistes s'est massée autour d'elle dès qu'elle a posé le pied à Saïs dans le Tarn, retardée par un barrage de gendarmes. Elle n'a pas pris la parole pour l'instant, mais sa présence réjouit les opposants à la 69.
On a la médiatisation avec des activistes très connus comme Greta Thunberg. Moi, je me dis que c'est super parce qu'elle est venue nous voir. Je pense pas que la lutte puisse basculer, mais elle prend encore une dimension supplémentaire. Ça nous permet d'être encore plus de visibilité, quoi.
À l'heure actuelle, une conférence de presse se tient sous la grange où sont réunis les opposants. L'idée du week-end pour eux, c'est de renforcer la ZAD qui est installée depuis 4 mois sur un terrain boueux. Il y a quelques cabanes, des tentes dans les arbres notamment. Près d'une centaine de personnes y seraient installées. Mais comme vous l'avez dit Nathalie, le rassemblement est interdit et les gendarmes sont positionnés autour. Il y a eu quelques jets de gaz lacrymogène dans la matinée et de petits affrontements.
Merci Valentin Larquier, en direct de Saïs, dans le Tarn. On retourne à Matignon.
Tu peux réagir là ?
Oui, bien sûr.
Moi, je proposerais quelque chose au gouvernement, par exemple, au lieu de saccager des paysages qui sont peut-être verdoyants pour faire des énormes autoroutes, parce que ce n'est pas l'autoroute tellement qui va faire les dégâts, c'est toutes les machines qui vont passer pour les faire et qui vont opérer un remembrement total. Si on s'occupait des chemins de fer. Par exemple, dans la Creuse, où j'ai une maison, il n'y a plus absolument aucun moyen de venir dans la Creuse. Alors, il y a la souterraine, certes, Châteauroux, la souterraine, Montluçon, et entre deux, dans ce qu'on appelle maintenant les territoires, vous savez, ce qui était nos provinces avant, eh bien, dans les territoires, on se démerde comme on peut, hein, parce qu'il n'y a plus de train, il y a les petites gares qui sont complètement désaffectées. Si on s'occupait de ça, hein, de comment aller dans les petites villes de nos provinces.
Ben voilà, le coup de gueule d'Annie Dupéré et sa demande au gouvernement. Alors justement, le gouvernement, il était rassemblé en séminaire gouvernement élargi aux 34 ministres, ministres délégués et secrétaires d'État autour de Gabriel Attal. Thomas Després, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors qu'est-ce qu'il est ressorti de ce séminaire de Matignon où devaient être fixées les priorités pour les mois à venir ?
Eh bien, un seul mot d'ordre, Nathalie, à ce midi, l'efficacité. C'est ce qu'a martelé Gabriel Attal pendant plus de 2 heures à ses ministres ce matin, avec un calendrier précis étalé sur plusieurs mois et une feuille de route. Le nouveau chef du gouvernement qui a notamment insisté, alors pas sur une autoroute, mais sur la nécessité de simplification. Comment faire pour avoir des résultats concrets le plus vite possible sans venir ajouter des normes et des contraintes aux Français? D'ailleurs, il a remis à ses ministres une circulaire datant de 1988, un texte rédigé à l'époque par l'un de ses prédécesseurs, un certain Michel Rocard, qui appelait déjà, je cite, à combattre l'excès de législation et de réglementation. Voilà pour la méthode, le tout dans une ambiance, nous dit-on, drôle et détendue. Gabriel Attal qui prendra la parole cet après-midi dans une interview à la presse écrite. Il y fera des annonces pour les prochaines semaines et dévoilera précisément son calendrier pour son gouvernement.
Oh, une réunion drôle.
Merci Thomas Després. Vous voyez, Annie Dupéré, notre invitée, vous avez écouté avec beaucoup d'attention.
Oui, une politique. Allez, autoroute.
Dans un instant, on va prendre l'autoroute. Tiens, on va partir direction la montagne. Et oui, les vacances scolaires viennent tout juste de commencer. A tout de suite.
Le journal inattendu.
Annie Dupéré, Nathalie Renouvello.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Annie Dupéré et Nathalie Renoux.
Et la première journée de vacances pour les élèves de la zone C, c'est-à-dire Paris, Créteil, Versailles, Montpellier et Toulouse. Autant dire qu'il y a du monde sur les routes. Bison futé, voie orange aujourd'hui dans tout le quart nord-est. Et puis du monde aussi dans les gares. Pierre Bazin s'est rendu gare de Lyon, d'où partent les trains pour les Alpes. Et il a rencontré des voyageurs heureux.
Regardez vos valises, je vous veux deux par deux devant moi.
Le truc que je préfère, c'est faire la luge.
Moi, c'est la patinoire, j'aime trop.
Le chocolat chaud.
Ouais, c'est trop bien.
Je vais dans les Alpes.
Et je vais faire du ski, trop bien.
Et c'est quoi que tu préfères?
Faire des batailles de boules de neige.
Je m'appelle Imani et je suis jamais allée au ski. J'ai jamais fait de la patinoire non plus, mais je pense que ça va être bien.
Et tu pars avec des copines?
Oui, nous trois. Ouais,
voilà. Bonnes vacances.
Merci, bonnes vacances.
Ça fait du bien, cette fraîcheur. Témoignage recueilli par Pierre Bazin. Et au bout du voyage, ça n'était pas gagné, mais il y a de la neige. Elle tombe dans les Alpes du Sud notamment. Les pistes sont prêtes dans certaines stations, notamment à La Clusaz.
Oui, il y a de la neige. On a aujourd'hui, alors c'est en temps réel, hein, donc ça peut évoluer dans la journée. On a 32 pistes sur 54 et ça ne comprend que le domaine de La Clusaz. Si on rajoute le domaine de Manigault, qui est la station qui est juste au-dessus avec qui on travaille, on est à presque une soixantaine de pistes. Même si il y a des températures plutôt printanières et qu'on a une météo un peu mitigée, il y a eu des bonnes chutes de neige en janvier qui permettent de skier. Et on a des pistes de toutes les couleurs, si on peut dire. Pas mal de vertes, des bleus, des rouges et des noirs, donc ça satisfait tout le monde. Dans tous les cas, quand les conditions le permettent, oui, les canons à neige permettent de maintenir une partie du domaine, ce qui permet en plus de la neige naturelle de maintenir certaines pistes qui des fois sont un petit peu plus compliquées à maintenir. La semaine dernière, on était à 80% de la station, et là, on est à 84%. Il y a énormément de monde, là, ça va être 4 semaines intenses.
Voilà ce que nous disait la représentante de l'Office du tourisme de La Clusaz. Les sports à présent et d'abord du rugby. La France va tenter de se racheter dans le tournoi des Six Nations après sa défaite la semaine dernière contre l'Irlande. Les Bleus affrontent l'Écosse cet après-midi à 15h15 à Édimbourg. Vous allez regarder Annie Dupéré ?
J'aime pas le rugby, je dois avouer. Là, le gros avantage du foot, c'est qu'on voit où est le ballon. Si
autre match de la journée, Angleterre-Pays de Galles à 17h45, toujours en tournoi destination. Et puis du football, tiens, justement. La 21e journée de Ligue 1, elle a commencé par un nul, un partout entre Marseille et Metz hier soir. Les Marseillais qui n'arrivent plus à gagner. Aujourd'hui, Lens, Strasbourg à 17h et PSG-Lille à 21h.
Pardon aux joueurs du rugby, hein, mais ils sont toujours par terre à se vautrer, c'est assez agaçant. En fait.
J'adore vos commentaires sur l'actualité. Les victoires de la musique avec Gazo et Vianney ex aequo au titre d'artiste masculin de l'année. Mais on retiendra surtout l'avènement de deux femmes. Aya Nakamura, sacrée artiste féminine. Et puis un nom qui émerge, Zao de Sagazan. Nommée 5 fois, elle repart avec 4 prix. Meilleur album, révélation scène, révélation féminine et chanson originale pour la Symphonie des éclairs.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages.
On a parlé hier soir justement là où j'étais, sur la chanson française, un joli lieu, sur la, où il y a encore, on ne fait que de la chanson à texte française.
Eh bien,
et des gens parlaient d'elle justement.
La chanson à texte française, Zao de Sagazan, c'est magnifique.
Oui. Grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant.
Alors de la chanson au cinéma, un mot, Annie Dupère, un dernier mot dans ce journal sur ce tourbillon de révélations dans le monde du cinéma. À la suite de Judith Godrèche qui a porté plainte contre les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doyon. D'autres actrices ont révélé avoir elles aussi subi des violences de la part de ces réalisateurs lorsqu'elles étaient jeunes. Est-ce que vous pensez qu'il est temps que dans le milieu du cinéma, la parole se libère ?
J'ai beaucoup de mal à réagir à ça. J'ai beaucoup de mal à réagir à ça. Peut-être j'ai eu la chance parce que j'étais quelqu'un de... J'étais, vu mon histoire personnelle avec la mort de mes parents, une espèce de survivante comme ça. Personne ne se risquait à s'attaquer à moi. C'est comme ça. J'avais pas le profil de la victime. Donc c'est vrai que je manque d'expérience personnelle, de harcèlement ou de choses comme ça pour prendre position. Je vais me faire taper dessus, mais je pense que tout ça est extrêmement exagéré. Que quand même, 6 ans avec un réalisateur, sous emprise, je veux bien, mais quand même consentante, non ? Je veux dire, je sais pas, je sais pas trop quoi penser de ce truc-là, mais j'aime pas les chasses aux sorcières tardives comme ça. Je trouve ça. Et puis en plus, il y a une chose qui me, je voudrais pas. Alors admettons que certains hommes aient été effectivement des prédateurs comme ça, mais ils ont fait parfois de belles œuvres. Et j'aimerais pas du tout qu'on condamne leurs œuvres en même temps que l'homme. Voilà.
Par exemple, si c'est passé avec
Polanski, je veux dire, ça serait absolument stupide, pas parce que Polanski a couché avec une fille qui avait 15 ans il y a 50 ou 60 ans, je veux dire, de condamner ses œuvres. On ne va pas condamner Le Pianiste, ce film extraordinaire, à cause des agissements personnels du metteur en scène. Voilà, il y a une espèce de confusion entre tout ça qui me gêne un peu. J'aime pas les choses.
Vous voulez nuancer
Nuancer, nuançons quand même. Quelquefois, je me fais taper sur les doigts parce que je dis que j'ai une défense des hommes aussi. J'ai une défense des hommes en disant que toutes les femmes ont gardé leur prérogative primitive. De mise au monde d'enfants, de ceci, elles peuvent même faire la pute si elles ont envie, etc. Et les hommes qui, manifestement, mais je le sais par expérience, j'ai eu un fils qui est très doux, qui est formidable, il avait besoin d'une heure et demie de guerre par jour. Il n'y a plus de guerre. Et il est très mal vu de casser la gueule à son voisin.
Qu'est-ce que les
hommes font de leur besoin fondamental de bagarre, presque, de dégommer quelque chose. Mais ils l'ont. Ils l'ont.
Eh bien, ils font du rugby.
Ils sont venus le détourner maintenant vers le professionnel, vers l'envie de gagner des sous, vers l'envie de la promotion, mais ils ne peuvent plus l'employer à leur niveau primitif. Voilà. Et ce qui est bien d'ailleurs, mais il faut qu'ils se démerdent. Hein.
Merci beaucoup pour cette réaction. On se retrouve dans un instant pour votre portrait et puis pour parler de cette pièce, Le Duplex, que vous vous apprêtez à jouer. À tout de suite.
Le journal inattendu d'Annie Dupéret.
Avec Nathalie Renoux sur RTL.
12h30, 13h30.
Le journal inattendu d'Annie Dupéret.
Avec Nathalie Renoux sur RTL.
Annie Dupéret, c'est maintenant l'heure de votre portrait. Alors si des auditeurs ne vous connaissaient pas et que je devais vous présenter, je leur dirais que vous êtes cette femme brune qui balade sa silhouette d'une folle élégance de pièce en film. On vous a vu chez Jean-Luc Godard, Alain Resnais ou Yves Robert, inoubliable femme fatale dans Un éléphant, ça trompe énormément. On a la musique, mais il faudrait avoir l'image. Vous, dans cette robe rouge qui s'envole façon Marilyn, à la clé une nomination au César de meilleure actrice dans un second rôle.
Demain, je suis pas libre à déjeuner. À dîner non plus.
Et à goûter.
Vous êtes tout mouillé.
Bah vous, par contre, je me trouve un peu sèche. Pourquoi ?
Vous me troublez.
Troublante aussi, au théâtre. Vous les avez collectionnées, les pièces de théâtre, une trentaine au moins. Et pendant 26 ans, vous êtes aussi invitée chez les Français en tant que Catherine Beaumont, épouse et mère dans la série télé Une famille formidable. C'était de 92 à 2018. Quelle aventure!
Les mâles de cette famille ont le droit de tout faire. Seulement les femmes, il faut qu'elles soient raisonnables, irréprochables et surtout mariées.
Alors, si la légitimité est la condition sine qua non pour être acceptée dans cette maison, j'ai l'honneur de vous annoncer mon prochain mariage avec monsieur Vincent Balaval, ici présent.
Ah bah, bon courage.
Votre famille, à vous, a connu une histoire tragique. Vous avez 8 ans lorsque vos parents meurent brutalement. Vous vivez alors chez votre famille paternelle, tandis que votre sœur cadette est recueillie par votre famille maternelle. Mm-hmm. Un destin que vous racontez dans votre autobiographie, Le Voile Noir, car vous êtes aussi écrivaine. Mais la famille, c'est aussi celle que vous avez fondée avec l'acteur Bernard Giraudot. Deux enfants, Gaël, votre fils, et Sarah Giraudot, votre fille, la comédienne. De tout cela, je retiendrai votre énergie, votre sourire, aujourd'hui encore, vos yeux qui pétillent, qu'importe le temps qui passe. La retraite, très peu pour vous, vous ne comptez pas tirer votre révérence, si ce n'est au moment des saluts au public à la fin de la pièce, et nous, on applaudit.
C'est gentil.
L'armée éteinte, lacrime bleu.
Et ça, c'est le générique d'une famille formidable.
Oui. C'est vrai que cette série, ça nous y tient tous à cœur. Et ça allait bien au-delà d'une télévision, effectivement. La rencontre, je l'ai beaucoup racontée, mais j'étais en train d'écrire la fin du Voile Noir. Je souhaitais faire une comédie parce que j'étais dans un état moral quand même. J'avais fait remonter toute cette douleur. Et on me propose une télévision qui commence le jour suivant de la remise officielle de mon livre, quand même, ça, c'était assez frappant. Et quand, en discutant avec Joël Santoni, en cherchant à se connaître, il me dit qu'il a jamais rien fait de drôle, quelque chose de drôle de sa vie. Il avait fait que des films noirs. Alors je ris et je lui raconte ce que je suis en train de faire. Et c'est vrai qu'on a découvert en quoi, 4-5 phrases, qu'on était orphelin de père et de mère au même âge.
Et donc, avec ce réalisateur, vous êtes parti en confiance.
Alors, sans savoir où sont nos anges, nos morts, on a levé la tête, on a fait trop bien organisé.
Voilà. Et cette famille formidable, elle a passionné les Français pendant un quart de siècle.
Et elle est partie sur cet augure-là de deux des créateurs, du moins, qui ont vite découvert qu'on avait un don qui n'était pas donné à tout le monde, qui tenait à notre histoire, qu'on pouvait passer très vite du tragique au nez de clown. Et donc, on a très vite trouvé les sujets ensemble. On peut attaquer tous les graves sujets tout en gardant la comédie. On peut faire les deux. On peut faire les deux, voilà.
Alors, la comédie, justement, celle qui nous intéresse à partir du 22 février, au Théâtre de Paris, c'est Le Duplex.
Oui.
Vous ne serez plus Annie Dupéret, mais Annie Tissandier.
Annie-eux, oui.
Retraitée, mariée à Jean-Jacques. Tout va bien dans votre vie, sauf que vous avez de sacrés voisins qui aimeraient bien vous faire déménager.
Au moment où elle a porté son île flottante qui flottait plus, j'ai une idée lumineuse. On va semer la zizanie dans leur couple pour qu'ils mettent leur appartement en vente. On les monte l'un contre l'autre pour qu'ils ne se supportent plus et décident de se séparer. Et on leur laisse l'immeuble, hein, et ils sont affreux.
Vous êtes mariée à Francis Perrin et puis vos abominables voisins, c'est Corinne Touzé et Pascal Légitimus.
Voilà.
On a l'impression que vous allez beaucoup vous amuser quand même sur une pièce comme celle-ci.
Oh, je pense, oui, je l'espère. En tout cas, la compagnie est très bonne. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle j'ai plongé dans l'aventure, parce que je me suis dit avec Pascal, que je ne connaissais pas encore, bon, on s'est vu assez rapidement, là, on n'a pas encore répété ensemble, mais Corinne, que je connaissais un peu, et puis Francis, qui est un vieux copain, je me suis dit, la compagnie va être bien, je fonce, allez.
Jouer du boulevard, c'est du pur plaisir ?
Mais je ne l'ai jamais fait.
C'est étonnant quand même. Non mais c'est vrai. Plus de 30 pièces de théâtre et jamais de boulevard.
Mais c'est une expérience pour moi. Je peux vous expliquer rapidement pourquoi. C'est parce que jusque-là, j'avais besoin d'être tenue, d'avoir un texte qui soit une colonne vertébrale forte pour défendre un texte fort. Y compris celui que j'ai joué dernièrement, Mes chers enfants de Jean Marbeuf, c'est costaud comme texte. Donc c'est un texte qui me porte. Et je lisais parfois des pièces que je trouvais charmantes, jolies, formidables, mais en même temps avec un texte dont j'étais obligée de porter, parce que lui-même en soi, le texte n'était pas... était quotidien, et je disais toujours, oui, c'est bien, mais ça, vous voyez, je le tournerais bien pour la télé, mais aller sur scène, monter sur scène pour défendre tous les soirs un texte quotidien, Et là, j'ai foncé.
Dans une interview récente, vous avez dit que le théâtre est l'âge adulte de l'acteur. C'est une belle phrase.
L'état adulte
de
l'acteur.
L'état adulte de l'acteur. Oui. C'est une belle phrase, mais qu'est-ce que ça veut dire que le théâtre est l'état adulte de l'acteur ? Le cinéma ou la télé, ça ne l'est pas ?
Non, c'est assez clair. En fait, au théâtre, nous sommes, après avoir répété avec le metteur en scène, mis au point nos rôles, la pièce, tout ça... Je pense que le metteur en scène au théâtre est plus un accoucheur qu'un père. C'est-à-dire qu'il vous aide à trouver le rôle et qu'on va assumer du début à la fin de la représentation en étant totalement responsable vis-à-vis des gens là qui sont dans la salle, qui sont des gens vivants. Donc on mène la baraque. Et au cinéma, même avec la plus grande complicité avec un metteur en scène, c'est son film, c'est lui le père. Il va choisir de vous prendre de loin, de près. S'il y a une scène en trop, il va vous couper, il ne va pas vous demander votre avis, c'est pour le bien du film. Et donc, vous n'êtes jamais que même très amicalement et avec complicité, utilisé dans un film. Et au théâtre, c'est impossible. Ouais. Au théâtre, vous êtes vraiment
vous êtes acteur,
en charge,
vraiment
donc acteur. Adulte.
Ouais. Et alors, si je devais vous demander de comparer les deux et de choisir...
Il n'y a pas de choix possible parce que j'adore tourner. Au passage, je ne fais pas de différence entre un tournage télévision et un cinéma,
oui,
c'est la même chose.
C'est la même chose, oui.
Mais non, je ne veux pas choisir parce que c'est très agréable aussi de jouer pour la caméra en imaginant un public derrière, d'avoir les rapports avec l'équipe et tout. J'adore ça, j'adore l'équipe.
C'est deux plaisirs complémentaires.
Oui.
Alors, la thématique du voisinage qui est développée dans cette pièce, on a cherché des chansons sur cette thématique-là et on a trouvé un certain nombre. On a retenu celle-ci.
J'ai toujours préféré aux voisins mes voisines dont les ombres chinoises ondulent sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime.
C'est Ronan Luce qui a toujours préféré ses voisines à ses voisins.
Voisins avec les ombres sur les volets, c'est assez joli.
C'est très joli. Nous sommes toujours en compagnie d'Annie Dupéré pour son journal inattendu. Elle vient nous parler de la pièce Le Duplex au Théâtre de Paris à partir du 22 février. On se retrouve après les titres de 13h.
Le journal inattendu d'Annie Dupéré
avec Nathalie Renaud sur RTL.
Il est 13h.
Le journal inattendu d'Annie Dupéré.
13h, les titres de l'actualité.
Nathalie Renaud.
L'hommage de la nation à Robert Badinter sera rendu mercredi à midi place Vendôme à Paris, devant le ministère de la Justice. Les hommages se multiplient au lendemain de la mort de l'ancien garde des Sceaux, décédé à l'âge de 95 ans. Depuis 10h ce matin, le gouvernement est réuni en séminaire à Matignon. C'est la première fois qu'il est au complet depuis la nomination de Gabriel Attal le 9 janvier dernier. Le Premier ministre qui doit s'exprimer dans la presse écrite cet après-midi pour dévoiler la feuille de route de son équipe. Greta Thunberg, dans le Tarn, la jeune militante écologiste est venue apporter son soutien ce matin aux opposants à l'autoroute A69 Toulouse-Castres. Du rugby, le match du rachat cet après-midi pour le 15 de France, une semaine après la débâcle face à l'Irlande. Les Bleus jouent en Écosse, coup d'envoi à 15h15. Et puis du football, après le match nul de l'OM hier soir face à Metz, la suite de la 21e journée de Ligue 1 à 17h. Lens reçoit Strasbourg, à 21h le PSG accueille Lille. Et puis, à l'instant, nous prenons la mer et nous allons retrouver le bateau Triana et son skipper Jean Dartuis en course dans l'Ocean Globe Race, course autour du monde sans assistance électronique.
Prenez le large
avec le journal inattendu sur RTL.
Bonjour Jean, comment est-ce que vous allez ?
Bonjour, ça va très bien puisqu'on est en train de passer le Cap Horn. Ce fameux caillou du bout du monde qui est donc la pointe à l'extrémité de l'Amérique du Sud et du Chili et qui est un symbole évidemment pour tous les marins en course autour du monde qui double ce fameux Cap Horn.
Est-ce qu'il y a un rite de passage ? Est-ce que vous avez ouvert une bouteille de champagne ou je ne sais ?
Oui, alors en plus on a eu droit à tout puisqu'on a, on est escorté par une troupe de dauphins assez importante, les dauphins du coin. On a eu les baleines et surtout on a un temps assez corsé puisqu'on a entre 45 et 50 nœuds de vent. Tout ça pour vous dire qu'on fait ce qu'on peut. D'abord pour pêcher, sain et sauf, parce que c'est vraiment une libération après les 4 semaines de traversée du Pacifique Sud dans lesquelles on est vraiment seul au milieu des océans. Et en l'occurrence, entre quelques rafales de vent, on va déboucher une bonne bouteille de vin de terre brune et comme le veut la tradition, offrir la première rasade à Neptune Et puis le reste de la bouteille à l'équipage.
Ce qui vous attend après, ça risque d'être un peu plus calme ?
Oui, alors après ce passage, on remonte vers Punta del Este, qui est donc le terme de cette troisième étape. En Uruguay, il y a à peu près une semaine de navigation. Et on commence la remontée de l'Atlantique Sud. Et donc le retour vers l'Europe et vers des endroits un peu moins hostiles et difficiles. Donc c'est vrai que c'est quand même pour l'équipage aussi une grande joie et une grande fierté d'avoir passé ce Cap Horn.
Merci en tout cas de nous faire vivre cette aventure et à la semaine prochaine, Jean Dartuis. Allez, sur Terre maintenant, la météo. C'est la tradition du journal inattendu, c'est notre invité qui nous la donne. Alors c'est à vous, Annie Dupéret.
Alors la météo. Cet après-midi s'annonce encore bien grise et humide sur une bonne partie du pays. Bon, je n'ai pas imité Chantal quand même. Les pluies matinales se décalent progressivement vers une large moitié est, laissant à l'arrière un temps plus calme et lumineux sur le quart nord-ouest et une alternance d'averses et d'éclaircies en direction de la Nouvelle-Aquitaine. Des pluies soutenues sont particulièrement attendues dans le Var et les Alpes-Maritimes. De la neige en abondance, en altitude, jusqu'à 50 cm dans les Alpes du Sud. Quant aux températures, elles sont toujours aussi douces pour la saison, 12 degrés en moyenne à l'échelle du pays. Il fera 11 degrés à Paris, 12 degrés à Lille, Bordeaux et Lyon, 13 degrés à Nice et 10 à Rouen, la ville de toute mon enfance et où j'ai fait mes premiers pas en art dramatique. Bonne météo.
Merci, c'était pas Chantal Latsou, c'était Annie Dupéret.
Le soleil s'est levé là-bas derrière Fantin, ça n'a été qu'un cri dans le petit.
Et pour clore cette météo, les frères Jacques, avec le titre Il fait beau, ça c'était un choix musical de votre part, Annie Dupéret.
Un chef-d'œuvre.
Ciel aux quatre coins de la ville ont porté la nouvelle. Il fait beau.
Ah, on a le droit de vous entendre chanter, c'est parfait, c'est magnifique. Alors on revient à votre actualité, c'est le Duplex, cette pièce de théâtre de boulevard que vous allez jouer à partir du 22 février au Théâtre de Paris et qui raconte une histoire de querelle, de voisinage, bien entendu. Les voisins, c'est toute une histoire. Mathias Luguin est avec nous comme chaque samedi. Bonjour Mathias.
Bonjour Nathalie, bonjour Anne Dupéret.
Bonjour.
Les voisins, un thème de fiction mais aussi de discussion inépuisable. Alors c'est une source de conflit où on peut se faire des amis avec nos voisins?
Eh bien, justement, avant toute chose, et c'est particulièrement à propos avec notre sujet du jour, Nathalie, j'ai balayé devant chez moi en me disant qu'à part cette porte qui claque et me réveille en sursaut à 7 heures sur mes jours de repos, eh bien, je ne connais pas ma voisine de palier.
Nous avons tous des voisins, mais savons-nous vraiment qui ils sont?
Alors, très bien, me voilà parti à sa rencontre.
Non, c'est vrai?
Non, pas exagéré, mais elle était vraiment pas là. Alors, autre tentative de rencontre, cette fois ici, à RTL, nos voisins du dessus, de chez Fun Radio, qu'on ne connaît pas trop. Visiblement, il y avait déjà une soirée en cours et j'étais pas sur la liste.
Ah, ça peut être ça, les voisins.
Bon, on va redescendre parce qu'on risque de pas trop s'entendre. Il est encore tôt, en plus, pour appeler la police. Donc, direction les rues de Neuilly-sur-Seine pour aller trouver quelques réponses. Alors vous, quel est l'état de vos relations avec vos voisins?
Très mauvaise, parce qu'ils sont cons. Ils mettent leurs chaussures sur leur paillasson devant ma porte. Je leur ai demandé de ne pas les mettre et du coup, ils sont fâchés. Voilà.
Bon, c'est vrai qu'on a facilement cette image du conflit de voisinage, le bruit, le vis-à-vis, une place de parking empruntée. Parfois, on n'en voit plus l'issue. Pourtant, selon un sondage BVA, près de 8 Français sur 10 déclarent entretenir de bons rapports avec leurs voisins. Et c'est ce qui se vérifie en réalité dans des proportions similaires lorsqu'on pose la question dans la rue.
Les voisins, c'est indispensable. On ne va quand même pas camper seul dans le désert pour fuir les voisins. Humour, manière de prendre les choses de manière positive, beaucoup de distance, oui, c'est sympa. Ils deviennent des amis, réellement. Oui.
Pendant le Covid, notamment, on a noté qu'il y avait des solidarités qui s'établissaient.
Les voisins sont plutôt sympas.
Si on a besoin de quoi que ce soit, on sait qu'ils sont là.
C'est très courtois et très sympa, surtout. On voit un coup de temps en temps ensemble, mais ça se passe très bien avec mes voisins.
Bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Tout miser sur le 31 mai prochain, le jour de la fête des voisins. Je suis certain qu'avec ma voisine, on va devenir de très grands copains. Évidemment, on vous tiendra au courant.
Mais moi, vous êtes mon voisin là, de plateau et je vous adore.
On s'entend bien, nous.
Mais oui, on s'entend bien. Merci, Mathias.
J'ai une emmerdeuse professionnelle à côté.
Hein?
Non, tout le quartier se plaint de cette femme qui laisse son chien en plus maltraitant. Un chien sur un balcon du matin à 7h30 du matin jusqu'à 8h30 du soir qui hurle et aboie par tous les temps. Voilà, et apparemment on peut rien faire parce qu'elle est dans la limite de la loi. Et c'est terrible, cette personne se reconnaîtra, effectivement, elle enquiquine vraiment tout un quartier. Les syndics ont porté plainte contre cette nuisance et cette maltraitance, mais elle ne s'occupe pas de la maltraitance. Et cette femme a été portée plainte pour harcèlement
contre les syndics qui ont porté plainte contre pour son chien qui hurle du matin au soir.
Eh bien, si elle nous entend, mais qu'elle s'occupe de son chien, cette voisine-là.
Qu'elle arrête de maltraiter son chien par la même occasion, en le laissant dehors par tous les temps.
Alors, vos voisins de fiction, cette fois, ils ne sont pas très commodes non plus. Ils veulent vous faire déménager dans cette pièce, le duplex.
C'est une machination.
On en a parlé à l'instant. C'est une comédie, évidemment. Il se trouve que, quand on regarde votre carrière, on se dit que vous avez beaucoup été dans la comédie, Annie Dupéret.
Oui.
Est-ce que, justement...
Moins au théâtre, effectivement.
Mais moins au théâtre, mais beaucoup au cinéma.
Oui.
Et est-ce que c'est un choix de votre part? On le disait dans le portrait qu'on a dressé de vous, que j'ai dressé de vous tout à l'heure. Vous avez eu une enfance brisée au moment de la mort de vos parents, à l'âge de 8 ans. Ils ont disparu brutalement. Est-ce que, d'abord, ce décès-là, c'est ce qui vous a poussé vers la fiction, vers le fait de jouer?
Non, pas du tout. Non. On va pas s'étendre. Moi, je me dessinais surtout à être peintre. J'étais aux Beaux-Arts. Et comme j'étais au conservatoire aussi pour continuer à étudier des textes, parce que le français était bien une des seules matières où j'étais première en classe. on m'a inscrite au conservatoire 2 fois par semaine à Rouen. Pour continuer à étudier des textes. En fait, j'ai jamais rêvé des actrices, c'est ça qui est merveilleux. J'ai jamais rêvé de... Et c'est très pratique, vous savez, de n'avoir aucune projection de soi dans l'avenir idéal. Ça vous évite les jalousies, ça vous évite les déceptions, parce que tout ce qui arrive par hasard, entre guillemets, est accueilli avec bonheur. Voilà. Et c'est tout à fait épatant de ne pas avoir une trop grande projection idéale de soi dans l'avenir.
D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que vous le dites, vous peignez, vous faites de la photographie, vous écrivez. Je citais Le Voile Noir, mais il y a les romans, L'Admiroir, là, récemment, Le Tour des Arènes.
Vous savez, je pense que quand on est...
artiste.
Quand on a fait opérer une résilience, comme dirait l'ami Boris Cyrulnik, après un traumatisme comme j'en ai eu un comme ça, on développe des dons cousins. Si on choisit de se reconstruire par l'art, je pense qu'on est quelquefois doué et pour la peinture, et pour l'écriture, et pour ça, et pour la comédie. Et la comédie étant un petit mélange de plusieurs choses comme ça. Et pour la danse, et donc on a des dons cousins qu'on peut employer, puis il y en a un qui gagne, qui dit à votre métier.
Chez vous, c'était le fait de jouer. Mais
a emporté, disons, le morceau.
Mais vous ne vous êtes jamais limité. Non. Vous parliez de la résilience, j'ai tout de même noté une phrase dans Le Voile Noir. « Faites pleurer les enfants qui veulent ignorer qu'ils souffrent, c'est le plus charitable service à leur rendre. »
Voilà. Et en même temps, j'ai pensé dernièrement, puisque j'ai la chance d'avoir beaucoup de jeunes lecteurs maintenant, puisque Le Voile Noir est inscrit au programme littéraire de troisième et de première littéraire.
C'est magnifique.
Donc j'ai beaucoup de professeurs qui le font travailler, et donc avec des réactions de jeunes lecteurs quelquefois. Et c'est vrai qu'il faut faire pleurer les enfants qui veulent se murer comme ça dans un non-chagrin, mais en même temps, pas leur mettre trop le nez dans la douleur. Parce que moi, je sais par exemple que mon déni du deuil que j'avais, quoique sachant que je l'avais à l'intérieur quand même, ma colère contre ce qui s'était passé est très constructiste.
Oui, elle vous a porté au final.
Bien sûr. Donc, voilà, faisons pleurer les enfants, mais n'allons pas trop vite pour leur mettre le nez dans leur douleur. S'ils réagissent contre, c'est aussi une force.
Effectivement. Alors, on le disait, vous avez abordé tous les arts, y compris la chanson. Je vous propose d'écouter ce duo avec Frédéric Zetoun.
Ah oui.
J'aimerais bien que l'infini ne soit pas qu'un vieux théorème, que le cancer soit interdit, au moins à tous les gens qu'on aime. J'aimerais que la mesquinerie prenne pour un temps de la hauteur.
On vous voit sourire, Annie Dupéret, en écoutant ça.
Ah, j'aime beaucoup, parce que c'est marrant, Frédéric m'a proposé de faire ce duo, parce que j'avais chanté une chanson dans un événement
pour les droits de la femme, d'ailleurs, qui s'appelle Les Funambules, qu'on va refaire, d'ailleurs, le 20 juin, je le signale, 20 juin, Théâtre de la Gaîté, Les Funambules pour les droits des femmes. Et Frédéric avait dit, j'ai entendu Annie chanter, j'ai pris une grande claque. Et c'est pour ça qu'il s'est immédiatement proposé de me faire un duo, chante pas.
Mais là, voilà, c'est ce que j'allais dire, vous chantez pas vraiment, vous slamez.
Non, ouais.
Allez, dans un instant, votre invitée Annie Dupéré, on va rester en famille. À tout de suite.
J'aimerais que les points sur les i ne soient plus jamais dans la gueule. J'aimerais qu'on respecte la vie, pas simplement dans un linceul. J'aimerais que les bars sur les t soient en chocolat pour les gosses. Et qu'avoir 10 ans à Bombay ne veuille plus dire tais-toi et bosse.
Le journal inattendu d'Annie Dupéré.
Avec Nathalie Renoux sur RTL. Le journal inattendu d'Annie Dupéré.
Avec Nathalie Renoux sur RTL.
Nous sommes toujours en direct sur RTL et Annie Dupéré, vous avez souhaité accueillir une invitée, une actrice qui est en ce moment sur scène, comme vous, au Théâtre du Petit Saint-Martin, où elle reprend le syndrome de l'oiseau jusqu'au 20 avril, je crois, un rôle pour lequel elle a été récompensée du Molière de la meilleure comédienne dans un spectacle de théâtre public l'an passé. Et cette actrice, c'est votre fille, Sarah Giraudot.
Bah oui, que je suis fière d'elle, mon Dieu.
Bonjour Sarah Giraudot.
Bonjour.
Salut Manon.
Bonjour maman. Salut.
Alors une mère et sa fille, toutes les deux au théâtre en même temps, c'est cocasse. Comment est-ce que vous allez faire pour aller vous voir mutuellement ?
D'ailleurs, moi, je l'ai vue deux fois déjà. Je l'ai vue au Rond-Point, où elle a joué brillamment l'année dernière et obtenu donc ce Molière de la meilleure comédienne. Et puis là, elle reprend au Petit Saint-Martin, où j'ai assisté à la première, bien sûr. Voilà. À toi, ma fille.
Moi, je viendrai un dimanche. comme elle joue le dimanche et que moi, justement, c'est un jour de repos, je viendrai la voir le dimanche.
C'est une pièce assez innocente qui pourra accueillir mes petites filles, je pense.
Ah, très bien, vous allez pouvoir venir en famille. Sarah Giraudot, vous avez dit avoir longtemps souffert d'évoluer dans l'ombre de vos parents, notamment de votre mère. Est-ce que cette période, elle est définitivement derrière vous ?
Oh non, souffert, non, ça c'est un bien trop grand mot. J'ai pas du tout souffert, c'était plus le retour. C'est un métier d'image, c'est un métier où on existe aussi à travers le regard des autres. Et je me suis rendu compte avec le temps, dans l'enfance de ce métier, les toutes premières années, on évolue un peu comme un enfant, puis on devient adolescent, puis on devient adulte. Et c'est vrai que dans toute cette enfance-adolescence, on me ramenait constamment à mes parents. Tout le temps. Et c'est vrai que du coup, à un moment donné, j'ai eu du mal à savoir qui j'étais, quel est le retour qu'on a sur ce qu'on propose artistiquement. Et c'est vrai que c'était ça qui, à un moment donné, peut perturber un petit peu l'esprit. Mais souffert, non, c'est quand même un très grand mot.
Merci pour cette précision.
C'est agaçant. Je le comprenais tellement que c'est agaçant qu'on vous regarde en cherchant tout le temps qu'est-ce qu'il y a de votre père et qu'il y a de votre mère. Regardez-moi.
Ben oui.
Et je comprenais parfaitement ce qu'elle sentait, à tel point que pour la libérer en quelque sorte, en plus, je me tenais très très loin, très très loin du métier, comme ça, je voulais, voilà, là, chérie, je ne te regarde même pas comme ça, peut-être les gens vont plus me voir, et à tel point, de temps en temps, je ne savais même pas ce qu'elle faisait, on me disait, mais comment ? Vous ne savez pas que votre fille tourne tel film ?
Ah oui, vous êtes devenue une mauvaise mère, quoi.
J'ai l'habitude de rester éloignée, maintenant ça va.
Bon, l'an passé, en tout cas, Sarah Giraudot, lorsque vous obtenez votre Molière, vos mots s'adressent à votre maman.
Je pense à un oiseau aussi important dans ma vie, un oiseau aussi solide et si fragile à la fois, qui, malgré les torrents fracassants de son enfance, a réussi un envol majestueux à ma maman. Merci beaucoup.
Merci chérie, tu m'as fait pleurer ce matin encore.
Oui, mais quel beau texte et que c'est joliment dit.
Oui.
Je pense que bien des mamans aimeraient entendre ces mots-là de la part de leur fille.
Oui.
Bah, c'est vrai que la résilience, les parcours comme celui de ma maman, après, c'est vrai que sur les générations qui suivent, elles ont, il y a un langage aussi qui parle très fortement sur ce que moi, artistiquement, je fais et ce pourquoi je suis portée. Et c'est vrai que c'est un passé familial qui se poursuit. Et puis, je pense que mes filles aussi vont récupérer d'autres choses. Donc,
La pièce qu'elle joue d'ailleurs en ce moment, c'est vrai que c'est ce personnage, c'est quand même très assez dur cette pièce, mais en même temps, je veux pas dire ça pour le public. En pièce, la pièce est tellement bien écrite que effectivement sur cette fille kidnappée qui est maintenue dans un
oui, cadre, c'est un peu l'adaptation du parcours de Natacha Campouche.
Voilà, c'est ça. Alors on ne navigue pas trop longtemps dans je rassure les gens qui ont envie d'aller la voir et qu'ils ont mon Dieu le sujet. Non, la pièce est tellement habilement écrite par monsieur Pierre Hardy que il y a très vite un espoir. Donc on sait, il y a un suspense, un vrai suspense, et on sait très vite qu'en fait elle va s'en tirer et opérer elle à son tour une résilience et
voilà,
devenir un bel oiseau.
Voilà comment une mère vend la pièce de théâtre de sa fille, Sarah Giraudeau.
Je pouvais pas rêver mieux.
Merci en tout cas. C'est au théâtre du Petit Saint-Martin vous concernant, Sarah Giraudeau. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin dans le journal inattendu.
Merci ma fille et merde pour
merci
ce soir.
Merci maman.
Alors, Annie Dupéret, nous avons cherché des chansons qui pourraient vous faire plaisir. Et dans votre livre, Le Voile Noir, nous avons trouvé une jolie allusion à ce titre.
Je voudrais changer les couleurs du temps, changer les couleurs du monde, le soleil, le vent.
Les couleurs du monde de Guy Béard.
Oui. Je dois à Guy Béard une chose, mais qui il est complètement indépendant de ces choses, parce que je le connaissais très très peu, mais il y avait une grande fête. Il faisait souvent des grandes fêtes dans sa maison quand j'étais jeune. Et c'est à une époque où je souhaitais renouer avec le théâtre, vraiment. Et c'est en me rendant un petit peu à contre-cœur, d'ailleurs, à une fête chez Guy Béard, énorme fête comme ça, que j'ai rencontré Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud.
Wow.
Et que j'ai dit à Jean-Louis, je voudrais revenir au théâtre. Vous savez, j'étais au conservatoire, là, je fais beaucoup de cinéma, mais... Et il m'a dit, vous dansez ? J'ai dit, bah oui, je prends des cours de danse depuis l'âge de 12 ans. Alors, venez me voir demain à l'Élysée-Montmartre, j'ai peut-être un rôle pour vous.
Et c'est grâce à ça.
Voilà, je le dois.
On vous retrouve sur scène encore aujourd'hui, c'est fou. Guy Béard, Les couleurs du temps. Le journal inattendu d'Annie Dupéret se poursuit, chers auditeurs. À tout de suite.
Le journal inattendu d'Annie Dupéret avec Nathalie Renaud sur RTL.
Le journal inattendu d'Annie Dupéret
avec Nathalie Renaud sur RTL.
And just a gigolo, and everywhere I go.
Est-ce que vous savez pourquoi on a choisi ce petit passage musical, Just a Gigolo?
J'ai fait un film qui s'appelait Just a Gigolo.
C'est gagné, oui.
Oui, Cannes, c'était super.
Un film d'Olivier Barrault avec Cannes Mérade.
Oui.
Une comédie encore.
Oui.
Est-ce que dans votre carrière, est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous avez des rôles qui vous auraient échappé et que vous auriez adoré jouer?
Aucun regret, parce qu'en plus, je n'ai jamais su quel rôle je rêvais. Je rêve toujours que le suivant soit le plus différent possible. Et j'ai d'ailleurs de la chance, parce que, effectivement, après Les Familles Formidables, on m'a immédiatement proposé pour la télévision des rôles, mais incroyablement différents. Dernièrement, il y a eu ce film qui s'appelait Petit Ange, où je faisais une psychopathe, mais une psychopathe terrible, terrible. Et là, qui est passé il n'y a pas longtemps, avec un succès, paraît-il, inespéré, de 5 700 000 spectateurs. Cette histoire de loup qui s'appelait Mort d'un berger, où je faisais une paysanne très dure et désespérée. Donc j'ai la chance qu'on me propose des rôles extrêmement différents. Moi, j'attends toujours quel est celui qu'on va me proposer qui va m'élargir un petit peu ma palette.
Et au théâtre, vous n'aviez jamais joué de boulevard, et le boulevard arrive avec le duplex à partir du 22 février. Le théâtre, justement, jusqu'à quand est-ce que vous pensez pouvoir continuer à y jouer ?
Plus longtemps possible. Je ne veux pas mettre de stop, voilà. Si jamais la maladie, ce qui est le malheur quand même, me tombe dessus, je serais bien obligée. Mais sinon, je ne vois aucune raison de me fixer une date d'arrêt. Aucune, hein.
Ah, j'aime bien cette réponse, ça donne tellement d'espoir. Pierre Arditi, avec lequel vous avez joué évidemment sur scène, a connu des malaises récemment en jouant sa pièce de théâtre. C'est des choses qui vous effleurent quand même avec le temps qui passe ?
Oui, mais Pierre, attention, hein, Pierre, je veux dire, lui, il est un insatiable du boulot d'une manière dingue, quoi. Moi, j'ai des temps de repos, je prends soin de moi. Je sais pas comment il vit lui, mais c'est 100 à l'heure. Il joue une pièce, il joue un truc l'après-midi. Il donne vraiment beaucoup. Certainement, il a eu beaucoup de tensions qui l'ont quand même. Faut faire attention quand même.
Vous n'avez pas du tout l'air de vous plaindre, par exemple, du peu de rôle qu'on pourrait accorder aux femmes d'un certain âge. Vous trouvez que ça n'est pas votre cas? Vous trouvez que vous avez eu traversé toutes les périodes avec des propositions qui vous convenaient?
Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Alors, il y a des gens, quelquefois, qui m'ont dit « Ah, mais alors, le cinéma vous a lâché à partir de... » C'est vrai qu'à partir de 30-32 ans... J'ai plus tourné de films et je...
Oui, mais c'est revenu après.
Mais attendez, mais j'ai fait des choses au théâtre pendant ce temps-là, mes plus belles pièces, quoi. Donc je m'en suis à peine aperçue. Et c'est vrai que, bon, comme on sait comment fonctionne l'industrie cinématographique, c'est tout simple, j'ai dit c'est tout simple. Je n'ai pas trouvé le rôle marquant et qui a du succès, qui me fait passer d'un âge à un autre... Et je n'ai pas fait les deux succès à suivre qui font que vous êtes une espèce d'écluse par laquelle passent tous les scénarios. Voilà. Bon, ben c'est comme ça. Moi, j'ai fait pendant ce temps-là du théâtre merveilleux. Et puis le cinéma, de temps en temps, il y a un fou qui me propose un rôle. C'est génial.
Oh, j'adore. C'est génial. Eh bien, c'est comme ça qu'on va terminer cette émission, par ce mot-là. Merci, Annie Dupéré, d'avoir été avec nous. Dans un instant, c'est Entrer dans l'histoire. On se retrouve la semaine prochaine. C'est l'humoriste Jérémy Ferrari qui sera à votre place. Est-ce que vous avez un message pour lui?
Ah oui. Oui, Jérémy, je ne t'ai pas encore vu, mais on m'a raconté un peu ce que tu fais. Alors, je pense que continue à avoir un œil aigu sur notre époque et pratique l'irrévérence. On a besoin d'irrévérence. Continue.
Merci Annie Dupéré. Je rappelle qu'on peut vous voir sur la scène du Théâtre de Paris à partir du 22 février dans Le Duplex. Merci d'avoir été avec nous en direct avec les auditeurs d'RTL. Très bon après-midi sur RTL.